Chapitre 19. La villa lumirante était une structure parasite, se remémora Caise en enjambant les filaments de calfatage pour traverser le sas avant du Marcus Garvey. Lumirante saignait zone libre de son air et de son eau et n'avait aucun écosystème propre. La passerelle tubulaire que le ponton d'accostage avait lancée était une version raffinée de celle qui avait tourbillonné pour atteindre le Haniwa, un modèle conçu pour être utilisé dans la gravité centrifuge du fuseau. Un tunnel en tôle ondulée, articulé par des bras hydrauliques intégrés, dont chaque segment était cerné d'un anneau de plastique rigide antidérapant, ces anneaux tenant lieu de barreaux d'échelle. La passerelle s'était frayée un passage autour du Haniwa, elle courait à l'horizontale, à l'endroit où elle rejoignait le sas du Garvey, mais s'incurvait brusquement sur la gauche, grimpant verticalement pour contourner la coque du yacht. Maël Koum escaladait déjà les barreaux, se hissant de sa seule main gauche, la droite tenant la carabine Remington. Il portait un ample treillis léopard, son blouson de nylon vert sans manches et une paire de tennis élimés aux semelles rouge vif. La passerelle oscillait légèrement chaque fois qu'il grimpait un nouvel échelon. Les mousquetons de la bretelle improvisée de Caise lui rentraient dans l'épaule avec le poids de l'Ono Sendai et du construct du tréplat. La seule chose qu'il ressentait à présent, c'était de la peur, une terreur généralisée. Il la repoussa, se forçant à réviser mentalement la conférence d'Armitage sur le fuseau et la villa lumirante. À son tour, il entama l'escalade. L'écosystème de zone libre était limité, non pas clos. Sion était un système clos, capable de se recycler des années durant sans recourir à l'introduction d'éléments extérieurs. Zone libre produisait elle-même son air et son eau, mais dépendait de constants approvisionnements en vivres, de l'augmentation régulière de la quantité d'éléments nutritifs dans le sol. La villa lumirante, en revanche, ne produisait rien du tout. « Mac, » dit Maël Koum d'une voix tranquille, « monte voir ici, près de moi. » Caise se faufila de côté sur l'échelle circulaire et grimpa les derniers barreaux. La passerelle débouchait sur une écoutille à la surface lisse et légèrement convexe, de 2 mètres de diamètre. Les bras hydrauliques du tube disparaissaient à l'intérieur de logements flexibles intégrés dans l'encadrement de la porte du sas. « Bon alors, qu'est-ce qu'on... » L'ouverture de l'écoutille lui ferma la bouche. La légère différence de pression lui projetant un flot de fine poussière dans les yeux. Maël Koum escalada le rebord en hâte et Caise entendit le minuscule cliquetis du cran de sûreté de la Remington qu'on relevait. « C'est toi le Mac pressé ?» chuchota Maël Koum déjà accroupi. Bientôt, Caise fut à ses côtés. L'écoutille était centrée sur une chambre circulaire, voûtée, revêtue d'un carrelage de plastique bleu antidérapant. Maël Koum lui donna une bourrade, pointa le doigt et Caise découvrit un moniteur de contrôle encastré dans la paroi incurvée. Sur l'écran, un grand jeune homme en costume, de la Tessier H-Pool, était en train d'épousseter quelque chose sur les manches de sa combinaison sombre. Il se tenait à côté d'une écoutille identique dans une chambre semblable. « Vous nous voyez absolument désolé, monsieur, » dit une voix sortant de la grille centrée au-dessus de l'ouverture. Caise leva les yeux. « Nous vous attendions plus tard, au dock axial. Un instant, s'il vous plaît. » Sur l'écran, le jeune homme hocha la tête avec impatience. Maël Koum pivota, l'arme prête, tandis que s'ouvrait une porte sur leur gauche. Un petit Eurasien, en survêtement orange, pénétra dans le sas et les considéra, les yeux écarquillés. Il ouvrit la bouche, mais pas un son n'en sortit. Il la referma. Caise jeta un œil sur le moniteur. Écran vide. « Qui ?» parvint à dire l'homme. « La marine Rastafari, » répondit Caise en se redressant, la console de cyberspace lui battant la hanche. « Et tout ce qu'on veut ?» C'est de quoi nous brancher sur votre système de surveillance. » L'homme déglutit. « C'est un test ? » ?»« C'est ça, une mise à l'épreuve. Ce doit être une mise à l'épreuve. » Il s'essuya les paumes aux cuisses de son survêtement orange. « Non, Mac, c'est pour de bon. » Et Maël Koum apparut, se relevant en braquant le canon de la Remington sur le visage de l'Eurasien. « Allez, tu dégages !» Ils franchirent la porte à sa suite, pénétrant dans un corridor dont les parois de béton lissé et le sol irrégulier, recouvert de bouts de tapis superposés, étaient parfaitement familiers à Kez. « Jolie carpette !» observa Maelkoum en lui enfonçant le canon dans le dos. « Ça sent comme à l'église !» Ils arrivèrent devant un autre moniteur, un antique Sony. Celui-ci, monté au-dessus d'une console, muni d'un clavier, lui-même surmonté d'une batterie de panneaux de connexion complexes bourrés de prises. Lorsqu'ils s'arrêtèrent, l'écran s'illumina, montrant le finnois qui leur souriait, crispé, depuis ce qui ressemblait à l'antichambre de la métro Holographix. « Ok, dit-il. Maelkoum, emmène ce mec au bout du couloir jusqu'à la porte du vestiaire qui est ouverte. Il le fourre dedans. Je reverrouille la porte. Kez, tu prends la cinquième prise à partir de la gauche, panneau supérieur. Il y a des adaptateurs dans le placard sous la console. Il te faut un raccord Ono Sendai, 20 Hitachi 40. » Pendant que Maelkoum faisait avancer son prisonnier, Kez s'agenouilla et fouilla dans l'assortiment de connecteurs et de prises jusqu'à ce qu'il ait découvert le modèle qu'il voulait. Une fois sa console raccordée à l'adaptateur, il marqua une pause. « Tu te crois absolument obligé de prendre cette tête, mec » demanda-t-il au visage sur l'écran. Le finnois s'effaça, ligne par ligne, pour être remplacé par l'image de l'Onizone sur fond d'affiches japonaises déchirées. « Tout ce que tu veux, mon chou, » fit Zone d'une voix traînante. « Tu viens en causer à l'Oni. »« Non, » dit Kez. « Remets-moi le finnois. » Tandis que disparaissait l'image de Zone, il enficha l'adaptateur Hitachi dans sa douille et se disposa les trottes sur le front. « Qu'est-ce qui t'a retenu ?» demanda le très plat, et il rigola. « T'es déjà dit de plus faire ça, grinça Kez. »« C'est une blague, gamin, » dit le construct. « Pour moi, le décalage temporel égale zéro. Bon, voyons voir ce que nous avons là. » Le programme Kuang était vert, exactement de la teinte de la glace Théa. Kez le vit devenir de plus en plus opaque, même s'il pouvait toujours distinguer nettement l'espèce de requin miroir noir lorsqu'il levait les yeux. Les lignes de fracture et les hallucinations avaient maintenant disparu, et la chose semblait aussi concrète que le Marcus Garvey, un antique jet dépourvu d'aile, avec une peau lisse plaquée de chrome noir. « Pile dessus, » dit le très plat. « Exact, » dit Kez, et il cliqua. « Comme ça. Je suis désolé, » était en train de dire un Molly 3 de gêne, tout en lui bandant la tête. « Notre unité n'indique aucun traumatisme, aucun dommage permanent à l'œil. Vous ne le connaissiez pas très bien avant votre entrée ici ?»« Je ne le connaissais pas du tout, » dit Molly, l'air sombre. Elle était allongée sur un lit élevé, à moins que ce ne fût une table rembourrée. Kez était incapable de sentir la jambe blessée. L'effet synesthésique de l'injection originelle semblait s'être dissipé. La boule noire avait disparu, mais la jeune femme avait les mains immobilisées par des courroies souples qu'elle ne pouvait voir. « Il veut vous tuer. »« Apparemment, » dit Molly, fixant le plafond brut au-delà d'une lumière absolument éblouissante. « Je ne crois pas que j'ai envie de le laisser faire, » dit Troidgen. Et Molly tourna douloureusement la tête pour fixer ses yeux sombres. « Ne jouez pas avec moi, » dit-elle. « Mais je crois, moi, que je pourrais aimer ça, » dit Troidgen. Et elle s'inclina pour lui baiser le front, écartant les cheveux bruns d'une main tiède. Il y avait des taches de sang sur sa djellaba pâle. « Où est-il reparti à présent ?» demanda Molly. « Se faire une autre injection, sans doute, » dit Troidgen en se redressant. « Il guettait votre arrivée avec la plus grande impatience. Je trouve que ça pourrait être drôle de vous materner, le temps que vous soyez remise sur pied, Molly. » Elle sourit, essuyant distraitement une main ensanglantée sur le devant de sa robe. « Votre fracture à la jambe aura besoin d'être réduite, mais nous pouvons arranger ça. » « Et Peter là-dedans ? » « Peter ?» Elle hocha doucement la tête. Une mèche de cheveux bruns se défit, lui tomba en travers du front. Peter est devenu plutôt ennuyeux. Je trouve plus généralement l'usage de toute drogue ennuyeux. Elle gloussa. Chez les autres en tout cas. Mon père en était un usager plus qu'abusif, comme vous avez dû le constater. Molly serait dit. Inutile de vous alarmer. Les doigts de trois jeunes effleurèrent la peau au-dessus de la ceinture du jean en cuir. Son suicide était le résultat d'une manipulation par mes soins. Démarche de sécurité de sa congélation. Je ne l'ai jamais rencontré en personne, vous savez. Je suis sorti d'éprouvette après son dernier endormissement. Mais je le connaissais fort bien. Les mémoires de masse savent tout. Je l'ai vu tuer ma mère. Je vous montrerai ça quand vous irez mieux. Il l'a étranglée dans son lit. Pourquoi l'a-t-il tuée ? Son œil non bandé se fixa sur le visage de la fille. Il ne pouvait admettre l'orientation qu'elle entendait donner à notre famille. Elle avait commandé la construction de nos intelligences artificielles. C'était une authentique visionnaire. Elle nous imaginait dans une relation symbiotique avec les IA, lesquelles prendraient toutes nos décisions de gestion. Nos décisions conscientes, dirais-je. La Tessier H-Pool serait devenue immortelle, une ruche. Chacun de nous réduit à des unités au sein d'une entité plus vaste. Fascinant. Je vous passerai des bandes d'elle. Il y en a près de 1000 heures. Mais je ne l'ai jamais comprise, vraiment. Et avec sa mort, sa direction disparut. Toute direction disparut même. Et nous avons dès lors commencé à nous replier sur nous-mêmes. À présent, nous ne sortons que rarement. Je constitue ici l'exception. Vous dites que vous aviez essayé de tuer le vieux ? Que vous aviez tripatouillé ces programmes cryogéniques ? Trojan acquiesça. J'avais de l'aide, d'un spectre. C'est ce que je pensais quand j'étais très jeune, qu'il y avait des spectres dans la mémoire de masse de la société, des voix. L'une d'elles était ce que vous appelez muet d'hiver, qui est en fait le code de Turing pour notre IA de Berne, bien que l'entité qui vous manipule soit une sorte de sous-programme. L'un d'eux ? Il y en a d'autres ? Un autre. Mais celui-ci ne m'a pas parlé depuis des années. Il a dû renoncer, je pense. Je soupçonne que l'un et l'autre représentent la concrétisation de certaines capacités dont ma mère avait commandé l'insertion dans le logiciel d'origine. Mais c'était une femme extrêmement secrète quand elle le jugeait nécessaire. « Tenez, buvez !» Elle introduisit un tube de plastique flexible entre les lèvres de Molly. « De l'eau, rien qu'un peu !»« Jane, ma chérie !» lança gaiement Riviera, de quelque part hors champ. « Tu t'amuses bien ? Laisse-nous tranquille, Peter !»« On joue au docteur !» Soudain, Molly se vit en train de contempler son propre visage. L'image suspendue à 10 centimètres de son nez. Elle n'avait aucun pansement. L'implant gauche était brisé. Un long doigt de plastique argenté, profondément enfoncé dans une orbite, qui était une mare de sang renversée. « Idéo !» dit Trojan, en caressant le ventre de Molly. « Idéo va faire bobo à Peter s'il ne s'en va pas. Allez, va nager, Peter !» La projection s'évanouit. « 07-58-40 » dans les ténèbres de l'œil bandé. « Il a dit que vous connaissiez le code, Peter. Muet d'hiver a besoin du code. » Kez prit soudain conscience de la clé de choube au bout de sa cordelette de nylon, reposant contre la courbe intérieure de son sein gauche. « Oui, » dit Trojan en retirant sa main, « je l'ai. Je l'ai appris étant enfant. Je pense que j'ai dû l'apprendre au cours d'un rêve, ou quelque part, durant les 1000 heures du journal de ma mère. » Mais je crois que Peter a raison de m'exhorter à ne pas le révéler. On se retrouverait avec Turing sur le dos, si j'ai bien compris, et les spectres sont avant tout capricieux. Kez décrocha. Drôle de petit client, hein ? Le Finnois souriait à Kez sur l'écran du vieux Sony. Kez haussa les épaules. Il vit Maelkoum remonter le corridor, la Remington toujours aux côtés. Le Sionite souriait, dodelinant du chef sur un rythme inaudible pour Kez. Une paire de minces fils jaunes descendait de ses oreilles pour disparaître dans une poche latérale de sa veste sans manches. « Du daube, Mac !» expliqua Maelkoum. « T'es complètement givré !» lui dit Kez. « Coûte-moi ça, Mac ! Un daube de première !»« Et les mecs !» intervint le Finnois. « Maniez-vous le train ! V'là votre transport en commun !» Me redemandez pas de vous concocter encore des numéros dans le genre du pic de 8 jeans qui a dupé votre portier. Mais je peux quand même vous payer le taxi jusque chez Troitjen. » Kez retirait l'adaptateur de la prise lorsque le chariot de service sans pilote apparut au bout du couloir, virant sous l'arche de béton sans grâce qui en marquait l'extrémité. Ça aurait pu être celui qu'avaient emprunté ces deux Africains, mais si c'était le cas, ils avaient disparu. Juste derrière le dossier du siège bas capitonné, ses minuscules manipulateurs accrochés au coussin, le petit Braun faisait clignoter avec obstination sa diode rouge. « Voilà le bus !» dit Kez à Maël Koum.